Alors, bienvenue à tous pour cette conférence hors cycle. Nous sommes heureux ce soir d'accueillir Catherine Chalier qui a bien voulu accepter notre invitation. Nous sommes très honorés de la recevoir dans nos murs. Catherine Chalier donc, est spécialiste d'Emmanuel Lévinas. Hein. Vous avez ici un de ses ouvrages traitant d'Emmanuel Lévinas. On en a publié d'autres. Je pense notamment à une publication aux éditions de Lerne consacrée spécialement donc, à Emmanuel Lévinas. Elle est professeure de philosophie, professeure émérite de philosophie à l'Université de Nanterre. Et elle a publié de nombreux autres ouvrages, notamment hein, Transmettre de génération en génération, publié aux éditions Buchet-Chastel, dont elle va nous parler ce soir plus précisément. Mais elle vient aussi de publier récemment Lire la Torah hein, aux éditions du Seuil, et encore aux sources du hassidisme que vous trouvez ici. Voilà, et de nombreux autres ouvrages que vous avez ici aussi sur la table de littérature et d'autres qui ne sont pas ici ce soir, hein, mais que vous pourrez aussi vous procurer facilement à la librairie si vous le souhaitez. Voilà, donc le format de la conférence est le format habituel. Hein, on va laisser 45 minutes à notre conférencière pour nous présenter ce sujet. Et puis après quoi, on vous propose donc d'avoir un temps de questions, discussions hein, pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Ça dépendra du nombre de questions et du nombre d'interventions. Vous êtes nombreux, donc je suppose, et le sujet est passionnant, je suppose qu'il y en aura beaucoup. C'est un sujet passionnant et d'actualité, hein, puisque la question de la transmission est au cœur notamment de la crise de notre système éducatif. Tous les gouvernements hein, tentent de réformer ou restaurer, je ne sais pas quel est le bon mot, le système éducatif français, avec plus ou moins de réussite, peut-être plutôt moins que plus. Hein. Mais en tout cas, cette question de la transmission, cette question du lien entre générations, cette question du lien social est une question fondamentale et l'ouvrage de Catherine Chalier aborde bien d'autres aspects. Elle pose aussi la question, par exemple, de la place de l'information. Est-ce que informer, on a le sentiment aujourd'hui hein, que la question de la transmission se résume à l'information, est-ce que informer, c'est transmettre? Voilà, donc toute cette question pose de nombreuses autres questions. Et nous allons le découvrir ensemble ce soir avec Catherine Chalier. Voilà, donc 45 minutes d'intervention et puis après un temps de questions.
Alors, d'abord, je vous remercie d'être si nombreux présents. Et ensuite, en introduction, je voudrais essayer de commenter devant vous une phrase du poète qui dit la chose suivante, le poète René Char, Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est une phrase que vous trouvez dans les feuillets d'hypnose de René Char et qui date de 1946. Mais en fait, en y réfléchissant, et je vais essayer de vous dire pourquoi, elle me semble d'une actualité encore plus peut-être pressante qu'au moment où René Char l'avait dite. Donc, je vais d'abord analyser cette phrase et ensuite, je vais prendre quelques actes de la transmission parmi ceux que j'étudie dans le livre que Franz Beloir a bien voulu mentionner et qui sont des actes comme ceux de raconter, etc. Donc, je vais en venir à ça ensuite. Mais je voudrais commencer donc de cette façon. Qu'est-ce que ça signifie de dire notre héritage n'est précédé d'aucun testament? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un testament pour recevoir un héritage? On sait que certaines personnes essayent de s'emparer d'un héritage avec violence et détermination, sans douter de leur bon droit, et puis d'autres, au contraire, malgré un testament, ne veulent pas de cet héritage pour toutes sortes de raisons. Les premières veulent s'approprier l'héritage qui ne leur était pas promis, et les secondes entendent bien au contraire s'en débarrasser alors que c'était censé leur revenir comme un droit ou comme un bienfait. C'est dire que l'intention de ceux qui rédigent ou qui ne rédigent pas un testament est bafouée et que leur intention reste lettre morte. Et dans les deux cas, la rupture est consommée entre les générations, le temps des unes ne passe pas au temps des autres, parce qu'on n'hérite pas de soi-même, mais d'un autre que soi. Or, dans les deux cas envisagés à l'instant et brièvement mentionnés, ce n'est pas le cas. Mais en fait, que veut dire René Char et pourquoi je commence par ça dans une réflexion sur la transmission ? Un héritage suppose que ça s'adresse à une génération. Quand René Char dit « notre héritage », il se considère comme faisant partie d'une génération qui sait qu'il y a un héritage. Oui, il y a un héritage dans les œuvres du passé qui sont là, dans les livres qu'on peut éventuellement ouvrir. Mais cet héritage n'est destiné à personne en particulier parce qu'il n'y a pas de testament. Alors, cet héritage est là. Il attend que les générations veulent bien éventuellement le recevoir, mais ce sera à elles de le faire en un mouvement vers lui, alors même qu'elles ignorent qu'il est pour elles, puisque précisément il n'y a pas de testament, ou bien s'il y en a un, il reste illisible, indéchiffrable, et ne fait pas droit, il ne fait pas sens. Alors évidemment, testament, je ne sais pas si c'est ce que René Char voulait dire, mais ça n'a pas d'importance. Testament, à la librairie Jean Calvin, ça fait aussi penser à ce que les chrétiens appellent le premier et le second testament. Les juifs ne parlent pas de testament, puisque ce mot latin traduit le grec diatheke, disposition testamentaire, mais qui, lui, ce mot grec, correspond en fait au mot brit qui veut dire alliance, alliance en hébreu donc. Alors, et ça c'est très éclairant pour comprendre notre phrase dans le sens de notre rencontre de ce soir, parce que dès lors on peut dire notre héritage n'est précédé d'aucune alliance, c'est-à-dire bibliquement notre héritage n'est précédé d'aucun appel à lui répondre. C'est ça l'alliance. Ce qui donne une tonalité nouvelle et assez tragique à cette phrase de Char, parce que du coup, ça signifierait que nous sommes abandonnés dans le monde, aucune voix ne nous appelle à lui répondre, ou bien nous n'avons pas reçu la grâce de trouver à qui répondre. Alors je suis consciente, bien évidemment, que pour certains, c'est une délivrance, une chance, une bonne aubaine de croire que la vie commence avec soi, sans ce préalable d'un passé. C'était déjà la vision des choses, je pense que vous le savez comme moi, des constructeurs de la tour de Babel. Faisons-nous un nom, plutôt que de le recevoir d'un autre qui nous appelle à lui répondre par ce nom. Mais quoi qu'il en soit, dans cette perspective, le mot héritage désigne alors la transmission et la réception, non pas d'un vague appel sentimental, mais d'un contenu précis de mots. Si je prends un héritage dans le sens biblique, donc d'un testament dans le sens biblique, pardon, c'est un héritage précis de quoi ? De paroles, de mots. Voilà. Pour les Juifs, la Torah est dite héritage, moracha, ça se dit en hébreu, moracha de tout un peuple, c'est un héritage de tout un peuple, et ce mot moracha est construit sur une racine qui signifie réclamer, exiger, mais aussi interroger, questionner, interpréter. Un héritage ne se reçoit jamais purement et simplement, même quand il est précédé d'un testament, d'une alliance, donc, entre celui qui transmet et celui à qui il est destiné. On peut le réclamer, mais, et je vais reprendre ça tout à l'heure avec les différents actes de la transmission, on peut le réclamer, mais il va aussi falloir le questionner, l'interpréter, pour qu'il ne soit pas simplement un fardeau aliénant. Un fardeau aliénant ou insignifiant, pour qu'on ne se dise pas que mieux vaut le dilapider. On peut aussi le dilapider, son héritage. Dans le cas contraire, même s'il y a eu testament, il n'y a pas d'héritage, mais uniquement la rigidité d'un poids qui ne permet pas de vivre et dont on cherchera à se débarrasser à la première occasion. Alors, Renouchard donc nous dit, c'est pour ça que cette phrase, je la trouve intéressante et à mon sens toujours valable, Renouchard nous dit donc qu'il n'y a pas d'alliance entre les générations, dans le sens que j'ai dit tout à l'heure. Et que les nouvelles doivent se débrouiller comme elles peuvent, puisqu'elles sont abandonnées à leur sort. Pourtant, il nous dit quand même qu'il y a un héritage. C'est-à-dire que malgré les nombreuses illusions en ce domaine, la vie ne commence pas avec soi. Reste que cet héritage ne fait plus sens pour la plupart des gens de la génération de Chartres. Alors, une génération qui a été marquée, et ça n'a fait qu'à s'accroître, par une sécularisation privée, par choix, de toute orientation, parce qu'il transcende le siècle. Alors, pourquoi est-ce que cet héritage ne fait pas sens? Peut-être parce que nous le transmettons d'une façon mauvaise, et ça, je vais tout de suite essayer de l'examiner avec vous, enfin, essayer d'y réfléchir en tous les cas, peut-être. Mais aussi, la question, c'est, et je terminerai par ça l'exposé tout à l'heure, il faut aussi qu'il y ait, du côté de ceux qui sont destinés à le recevoir, un désir de le recevoir. Et cette question du désir de le recevoir, elle me semble très, très importante aujourd'hui, parce que comment susciter ce désir qui se perd souvent dans toute autre chose. Alors, ainsi, pour terminer cette petite introduction, en Europe, pour me limiter à notre pays, là, notre Europe, une culture qui a été marquée donc, par la Bible, par le judaïsme, par le christianisme, par la tradition grecque, par la tradition romaine, a patiemment tissé ce fil autour de la transmission de paroles, d'images, de symboles, de rites, de philosophie, de sciences, d'art, de poésie, mais aussi de combats, de témoignages censés aider les hommes à vivre ensemble, à leur donner des connaissances, mais aussi à éveiller, et ça c'est un point qui me semble très très important, à éveiller ce que j'appellerais leur soi intérieur, le soi intérieur des personnes, ce par quoi, selon la Bible, ces personnes sont des personnes uniques à l'image de Dieu. Or, voici que ce dispositif a disparu et qu'il doit être âprement reconquis par ceux qui ont encore le sentiment ou le pressentiment qu'il s'agit d'un bien commun à eux aussi destiné, tandis que l'immense majorité vit sans lui et sans nostalgie également. Alors, les questions, c'est donc qu'est-ce qu'il advient, un héritage si faible et si appauvri, et est-ce qu'on peut lui redonner force de vie? Alors, je vais essayer d'examiner donc avec vous quelques-uns des actes de la transmission, en commençant par le premier, qui est le premier selon la chronologie même de la vie humaine, c'est-à-dire quand on la première transmission, donc c'est des actes de parole que j'examine, donc la première transmission, elle se fait sous le mode de la narration. sous le mode de raconter. Un enfant, on ne va pas commencer par lui faire un grand cours abstrait, on commence par raconter. Donc ça, c'est les premières paroles qui sont adressées aux jeunes enfants, qui est une façon de les apprivoiser, de les rendre un peu moins étrangers au monde dans lequel ils commencent à vivre et à s'étonner, à se réjouir, à souffrir. Bon, c'est souvent ça. Alors, l'acte de raconter, quel que soit ce qu'on raconte, une légende, une histoire, ce qui me semble très important, c'est de voir qu'il s'agit de s'adresser à quelqu'un. Donc, la première parole, ce n'est pas une parole qui dit ce que sont les choses, c'est une parole qui s'adresse à. Donc, la première parole ne vise pas à dire ce qu'est la réalité, mais elle vise à s'adresser à. Et c'est cette adresse-là qui éveille le soi d'une personne. Et en particulier pour des enfants, celui qui écoute a le sentiment que son existence compte pour un autre. C'est pour ça que c'est très important. Il ne suffit pas de lui acheter une tablette et de lui dire « débrouille-toi avec cette tablette ». Il faut lui parler à lui et donc lui donner le sentiment vrai que son existence compte pour un autre, que quelqu'un désire lui transmettre des choses, des paroles importantes, partager avec lui des mots porteurs de sens et d'espoir, ceux dont chacun a besoin de ces mots pour garder confiance, quelque chose en tout cas de ce bien commun dont je viens de parler brièvement à l'instant. Et en outre, et de façon liée, l'acte de raconter, il implique toujours une certaine durée. Et donc, il permet de s'initier à une temporalité qui est marquée par un avant et par un après, et qui ne se limite pas à l'instant du plaisir éprouvé ou de la pulsion ressentie. Et donc, cette inscription dans le temps, grâce à la narration, me semble aussi faire partie de la construction psychique. Celui qui raconte, mais alors il ne faut pas raconter en pensant à autre chose, évidemment, il faut vraiment raconter à la personne, et en disant que c'est très très important. Donc, celui qui raconte doit parvenir à retenir suffisamment l'attention de ceux à qui il parle, grâce à des mots. Et les mots, ils sont toujours habités aussi par nos propres émotions. C'est pas simplement des mots abstraits, par son propre désir de transmettre. Je reviendrai sur ce que ça peut vouloir dire, le désir de transmettre en conclusion. Et ceux qui écoutent doivent pouvoir pressentir que même s'ils ne comprennent pas tout, c'est pas très important, ces mots sont sûrement porteurs de force vitale pour eux. Et donc, l'acte de raconter oralement, on sait bien que dans beaucoup de cultures, l'oralité compte beaucoup, se fait donc avec des mots qui touchent aussi chez celui qui écoute sa chair, ses émotions, tout en éveillant son imagination, ses sens et pas seulement son intelligence. Et cela ne serait pas possible si celui qui raconte voulait seulement transmettre des idées, transmettre des informations. Je reviendrai un peu sur ça tout à l'heure si nous avons le temps. Raconter, et là je vais prononcer un mot en hébreu parce que je vais vous dire ce qu'il signifie, parce qu'il me semble très, très riche. Si on ne raconte pas en mettant de soi profondément, les mots perdent ce qu'on appelle en hébreu le tam. Et tam, c'est un mot qui est très riche. Il signifie à la fois la saveur, le goût et la signification. Et donc, les mots, ils ont une saveur, un goût et une signification. Un petit enfant juif qui commence à apprendre à écrire les lettres de l'alphabet hébraïque, très tôt, à 3 ans, dans les milieux très religieux, on lui fait des lettres en miel qu'on lui fait manger. Voilà, il prend goût comme ça.
On va le faire avec vos enfants.
Mais oui, vous pouvez. Oui. Pourquoi pas. On devrait essayer.
C'est ça la réforme qu'il faut pour l'éducation.
Voilà.
On a trouvé.
C'est pas compliqué, ça coûte pas cher. Un pot de miel par classe. Voilà. Donc, et raconter, donc ça ne permet pas la fuite en avant dans l'abstraction, justement. C'est le rite, la prosodie de la parole de l'orateur, sa force, sa faiblesse émotionnelle, ou au contraire son ardeur, reste inséparable de l'émergence de la signification du goût des mots. L'enfant, et pas seulement l'enfant d'ailleurs, tous ceux qui écoutent un verbe fait de chair et d'esprit, et il vit au diapason de cette scansion. Alors, raconter constitue un acte essentiel dans l'histoire de beaucoup de civilisations, et donc je me limite, je ne vais pas parler de tout bien sûr, à l'histoire des anciens hébreux. Dans la Torah, que vous connaissez sûrement, les parties narratives, si vous avez regardé de près, alternent avec des parties prescriptives. Et ça de façon indissociable. Alors, les parties narratives sont fondatrices d'une histoire, mais sans les secondes, les parties prescriptives, est-ce qu'elles le seraient ? Raconter est donc une obligation religieuse. Tu diras à tes enfants. On ne te demande pas si ça te fait plaisir, mais tu diras à tes enfants. Donc c'est une obligation, une mitzvah. Par exemple, il est prescrit à l'hébreu qui parviendra en terre promise de se souvenir de ce qui est advenu à ses pères et de le raconter au cours d'une cérémonie rituelle. Il devra apporter une offrande et commencer à raconter à haute voix devant l'Éternel, Deutéronome 26:5, que son père était un enfant d'Aram, etc. Donc, je ne vais pas raconter toute l'histoire maintenant. Voilà, mais c'est une obligation morale. Et par exemple, lors de la Pâque juive, encore maintenant, il y a un repas qui s'appelle le repas le Seder. Il ne faut pas croire qu'on va manger. Ça va venir très tard dans la soirée. On va commencer par raconter la sortie d'Égypte. Et les enfants sont priés d'être là, d'être bien réveillés et de poser beaucoup de questions. Donc c'est le céder de Pâques, le repas de Pâques, c'est essentiellement autour de la narration. Et on voit bien dans ce céder, c'est à la fois un rituel, parce que les choses sont très très précises, qu'il faut faire, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi une narration. Mais les deux se tiennent, et je pense que le rituel, il garde la narration. Il lui garde la narration et il permet qu'on ne l'oublie pas. Et donc, le devoir de raconter, la mitzvah de raconter, permet de relier le présent et le passé. Et d'ailleurs, on dit, par exemple, pour la sortie d'Égypte, chacun à cette table doit savoir qu'il est en train de sortir d'Égypte, alors qu'on est assis autour d'une table. C'est-à-dire que ce récit va être aussi actualisé, c'est-à-dire se demander qu'est-ce qui de nous est en train de sortir d'Égypte en ce moment, hein? Qu'est-ce qui de nous est en train de sortir d'Égypte? De quelle Égypte sortons-nous? Égypte, en hébreu, c'est Mitzrayim, et c'est sur une racine qui signifie l'angoisse, le resserrement. Alors, vous voyez bien qu'on peut tous sortir de nos angoisses et de nos resserrements. Ce n'est pas simplement le pays géographique de l'Égypte. Voilà, c'est une façon de... Voilà. Donc, c'est une façon de relier le passé et le présent. Et la transmission qui se fait selon ce dispositif donne un orient, une orientation aux individus, elle leur parle du passé et elle leur donne un élan pour aller de l'avant. Et c'est très intéressant en hébreu, c'est la même racine, un orient, kedem, avant, kodem, en avant, Kadima, même si vous ne savez pas l'hébreu, peut-être vous reconnaissez à chaque fois, c'est la même racine. Les mots hébreux sont formés sur des racines consonantiques de trois, donc de trois consonnes, et avec des voyelles différentes. Et avec cette même racine, on peut dire, en effet, l'Orient, l'avant, en avant. Donc, et si on prive quelqu'un de son avant, comment peut-il aller en avant? Voilà. Il y a même un parti politique en Israël qui s'appelle Kadima, en avant. Donc, et le rite est censé relier ces trois aspects ensemble d'une vie humaine. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite histoire qui n'est pas forcément... Voilà. Qui est peut-être notre situation, mais elle est très connue, cette histoire. Peut-être certains la connaissent. C'est une histoire chassidique, parce que les chassidim aimaient bien raconter des histoires... Et alors, on raconte que le Baal Shem Tov, c'était le fondateur du mouvement chassidique, un mouvement de renouvellement de la pensée juive, donc au XVIIIe siècle. Et alors, on raconte que lorsqu'il apprenait qu'un grand malheur était sur le point d'arriver, il partait dans la forêt. Dans un endroit qu'il connaissait, il allumait un grand feu et il disait une prière. Le monde était alors sauvé. Après lui, son disciple faisait de même, mais il ne savait plus dire la prière. Il se contentait donc d'aller dans la forêt, à l'endroit voulu, et d'allumer le feu. Le monde était encore sauvé. Après lui, son disciple se souvenait uniquement qu'il devait aller dans la forêt, il ne savait plus où exactement. Il avait oublié comment allumer le feu et il ignorait les mots de la prière. Il se contentait donc de dire à Dieu qu'il savait qu'il avait oublié tout cela et il lui demandait malgré tout de sauver le monde et cela advenait. Après lui, son disciple ne savait plus où était la forêt, alors il se contentait de raconter l'histoire du Baal Shem Tov et il demandait à Dieu de sauver le monde parce qu'il se souvenait encore de l'histoire. Son propre disciple savait qu'il ne savait plus même raconter l'histoire. Mais malgré tout, il demandait à Dieu de sauver le monde parce que si quelqu'un lui racontait l'histoire, il savait qu'il la comprendrait encore. Mais après lui, son disciple savait bien qu'il était trop tard et qu'il ne comprendrait plus l'histoire si on la lui racontait. Malgré tout, il s'adressait encore à Dieu et lui disait « Sauve le monde parce qu'il reviendra un jour un homme qui saura où est la forêt, qui retrouvera l'endroit, qui saura allumer le feu et qui dira la prière. » Voilà, c'est une fin sympathique. Voilà, je ne suis pas sûre si, c'est la seule fin sympathique. Je pense qu'il y a d'autres fins possibles qui le sont moins. Quoi qu'il en soit, au contact des mots du Baal Shem Tov, qui racontait l'histoire, selon un de ses disciples, quand il racontait l'histoire, et c'est ça qui est important pour la transmission. Quand il racontait l'histoire, parce qu'il la racontait tellement bien, alors chez ceux qui l'écoutaient, s'éveillait la mélodie secrète de chacun, la mélodie enfouie que l'on croyait morte, et chacun recevait le message de sa vie perdue, la nouvelle qu'elle était toujours là, et le réclamait, il parlait à chacun et à lui seul. Et ça, l'art de raconter. Hein, comme si, que chacun entende comme si ça lui était à lui destiné et que ça éveille en lui sa musique intérieure. Et ce thème de la musique, c'est très important dans le chassidisme, ce qu'on appelle le nigun, la mélodie. La mélodie qui nous habite. Et souvent, dans certaines communautés religieuses chassidiques, avant la prière, pendant un quart d'heure au moins, il y a un chant qui, c'est pas un chant, c'est un nigoun, c'est un murmure pour éveiller chez chacun justement cette mélodie. Voilà. Et donc ça, c'était le récit avait ce but-là d'éveiller cette mélodie, ce nigoun de chacun. Mais le problème, à l'heure actuelle, à mon avis, c'est d'une part que peut-être que nous ne savons plus raconter, que nous avons oublié beaucoup de choses, comme le dit l'histoire, mais que le dernier qui dit oui, mais je sais qu'il reviendra, etc., etc. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont plus du tout la nostalgie. Et je dirais, il y a quelque chose de pire qui est arrivé que ce que raconte l'histoire, il y a l'oubli de l'oubli. C'est-à-dire, nous oublions que nous avons oublié. Et donc, si on oublie qu'on a oublié, on n'est pas triste, puisqu'on a oublié qu'on a oublié. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, l'oubli de l'oubli, il est quand même une situation très présente aujourd'hui, même dans des jeunes générations, par ailleurs fort sympathiques, ça n'a rien à voir, mais qui n'ont absolument pas la nostalgie de tout ça. Alors, il y a beaucoup de raisons à cela. Il y a tout un processus lent de sécularisation, mais il y a aussi les malheurs extrêmes du XXe siècle qui ont introduit une rupture dans l'histoire absolument terrifiante. Et les générations nouvelles ne sont pas souvent capables de raconter comment leur après succède à cet avant terrible qui a été le XXe siècle, par exemple. Ça, c'est une question très, très difficile. Un avant, et il y a un avant qui n'a pas eu de suite. Un avant qui n'a pas eu de suite et un après qui voilà. Alors ça, c'est des questions. Et alors je pense, mais je dis ça trop vite, ce que je vais dire maintenant, c'est trop rapide, mais peut-être on reprendra dans la discussion. Je pense qu'il y a chez certaines personnes aujourd'hui une tentation de sauter par-delà toute l'histoire et d'essayer de retrouver un avant qui aurait dû être immuable et qui est censé être immuable, qui aurait dû ne pas changer. Et ça, c'est une tentation que je qualifie de fondamentaliste. Et qui existe, je crois, aussi bien dans le judaïsme, dans l'islam que dans le christianisme, c'est-à-dire, au fond, de plus voir la vie de la parole au cours des siècles, pour toutes sortes de raisons, et se durcir et essayer de vouloir retrouver un passé qui aurait dû... Qui est censé rester intact là où il est, ce qui n'est absolument, bien sûr, pas vrai. Bon, voilà pour ce premier point. Alors, je voudrais dire dans un deuxième point maintenant, dans ces actes de parole, les actes de parole qui sont très valorisés dans la transmission, et à juste titre, mais ça ne suffit pas à mon avis, c'est les actes de parole qui consistent non plus à raconter, mais à expliquer et à démontrer, c'est-à-dire de transmettre des connaissances, une érudition, un savoir, en s'adressant non plus à la singularité de la personne, dans ce qu'elle a de plus unique, mais dans ce qu'elle a de commun avec nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien sûr. Et donc là, ici, c'est s'adresser à sa raison, à ce qu'elle peut partager avec nous, ce que nous avons de commun. Donc ça, c'est un point, bien sûr, essentiel dans l'enseignement. Mais peut-être qu'on le valorise trop aux dépens d'autres choses. En effet, souvent, dans l'éducation, du moins telle qu'elle est conçue en France, à ma connaissance, et j'ai quand même passé toute ma vie dans les lycées puis dans les universités, il s'agit de transmettre des connaissances, il s'agit de transmettre une érudition, mais le soi des personnes en est dissocié, parce que en fait, on considère que c'est une affaire privée et que ça ne doit pas interférer. Et en fait, le savoir n'attend rien de particulier de ce soi. il le laisse libre de conduire sa vie comme il veut. Je prends un exemple pour être plus concrète. Si dans l'Antiquité, je ne vais pas prendre un exemple biblique, je vais prendre un exemple de la Grèce pour montrer que ce n'est pas simplement dans la Bible. Si les philosophes grecs, la philosophie pour eux, ce n'était pas du tout une affaire de spéculation et de connaissance, c'était, comme dit Pierre Hadot dans de très beaux livres, un exercice spirituel. C'est-à-dire, j'entends par spiritualité, comme Pierre Hadot le fait, c'est-à-dire, on va à la vérité en se transformant soi-même. Et donc, les écoles de philosophie dans l'Antiquité, c'était à la fois des écoles où on apprenait la philosophie, mais en apprenant la philosophie, on se transformait soi-même. Bon, aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Je peux faire un cours sur Platon, sur Plotin, mais voilà, c'est tout. Et après, mener ma vie, faire ce que je veux, et ça ne change rien du tout. Donc, le bien cherché par Platon ou cherché par Plotin, il émet des exigences, comme le Dieu de la Bible émet des exigences. Mais si je fais un cours sur le bien chez Platon ou sur le bien chez un tel, ou sur le Dieu de la Bible, je me place en position, j'allais dire, de défense. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il me demande quoi que ce soit. C'est moi qui l'oblige à répondre à mes questions. Et voilà. Et donc, je crois, c'est ce qu'on demande dans l'enseignement. Il suffit de transmettre un savoir sur les philosophes pour accomplir sa tâche honnêtement et en toute conscience, ce qui d'ailleurs est beaucoup, et je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, bien sûr, il faut beaucoup de patience, de compétences, des qualités, etc. Mais cette tâche noble et essentielle laisse de côté, comme tout à fait impertinente, la question de savoir si ce bien ou si ce Dieu a quelque rapport avec le soi des personnes dans l'acte de transmission, professeur et élève, est-ce que ça a un rapport. Et je pense que là, mais je ne veux pas développer ça parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais c'est l'inflation du modèle scientifique qui joue un rôle extrêmement important, d'ailleurs, même dans les départements de philosophie. Vous voyez, donc on parle du dossier scientifique des gens. C'est le mot science. On parle de son laboratoire. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire, mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est le modèle scientifique est très, très, très prenant. Alors, encore une fois, le savoir est bien sûr un très grand bien. C'est pas du tout, je n'en fais absolument pas le procès. C'est un grand bien à cultiver, à transmettre. C'est un bien commun. Il ouvre des chemins à l'émancipation, à ceux qui sont opprimés. Il y a aucun doute là-dessus. Il vise aussi une certaine universalité qui est indépendante des particularités généalogiques, sexuelles, religieuses, culturel, et c'est très bien, encore une fois, mais je crois que ça ne suffit pas pour tout à fait répondre à la question de la transmission, et qu'on ne doit pas considérer que le savoir constitue désormais le plus haut accomplissement de l'humain et que la spiritualité trouve en lui sa plus haute vérité. Voilà, c'est la critique que je voudrais faire là-dessus, sans encore une fois mettre en question le savoir, bien sûr. Alors, je vais revenir maintenant au point suivant, qui reprend ce que M. Bellois tout à l'heure a dit à propos de l'information. Oui, transmettre, ce n'est pas informer, parce que sinon, il n'y a qu'à donner à tout le monde ses tablettes, des ordinateurs, et puis ça y est, c'est fini, on ne se parle plus. Ce que j'ai remarqué aussi, et vous aussi sûrement, au sein des sociétés occidentales surtout, la grande et noble injonction de respecter la liberté des personnes, des consciences, s'est imposée, en France en tous les cas, après de durs combats contre l'Église, qui est aussi un peu responsable de cette situation. Ça s'est transformé peu à peu en désir de rien imposer à personne. Et donc, c'est l'effet tout à fait contraire, ne rien imposer aux nouvelles générations, voire de ne rien leur proposer. Mais on voit bien que c'est toujours en matière de tradition religieuse ou philosophique. Par contre, pour ce qui concerne la science, ça, on pense que c'est très important. Mais en matière religion, etc., combien de parents, même de bonne volonté, disent « moi, je ne transmets rien à mes enfants, choisiront plus tard ». Voilà. Alors, soit les adultes s'interdisent de les obliger à suivre un chemin, ou bien freinent même leur propre enthousiasme pour ne pas les influencer. Voilà. Mais cette idée d'un choix plus tard me semble totalement aberrante. Comment choisir à partir de rien, je veux dire, et en particulier en ce qui concerne justement ce domaine des philosophies, des religions, on ne fait pas son marché, des cerises ou des fraises. Et donc, il faut avoir reçu des paroles, pas pour les répéter comme un perroquet, mais pour qu'elles fassent leur chemin en soi. Donc, ça se justifie aussi par un autre argument qu'on entend. Je ne fais que reprendre des choses qu'on dit ici, il n'y a rien d'original dans ce que je dis. Qu'il faut respecter l'autonomie, et puis qu'on n'a pas besoin de cela pour faire son chemin dans la vie. Les enfants auront tout le temps plus tard de s'informer donc, en matière de philosophie, de religion, soudainement ils ont quelques désirs de le faire. Or, les conséquences à brève échéance de cette retenue apparemment vertueuse, pas influencer son enfant, c'est complètement fou cette histoire. Donc, il faudrait ne même pas leur parler, parce que bon, pas leur donner de nom non plus, parce que quand même. Bon. Voilà. Et donc les conséquences de cette retenue apparemment vertueuse, c'est une ignorance massive. Et je peux vous dire que parmi des étudiants qui sont des jeunes gens de 20 ans et plus, ils ne savent rien du tout dans ce domaine, mais vraiment rien, c'est rien du tout, pas moins le moindre souvenir. Alors je crois que c'est alors on dit que c'est pour ne pas leur faire subir la violence d'une influence, mais on leur fait subir une autre violence qui est non moins terrible, un certain abandon. C'est un certain abandon aux influences du moment. Parce que ce n'est pas vrai que cette autonomie est une autonomie. Cette autonomie, elle est souvent un mimétisme et une influence des pairs, PAIRS. Et aussi c'est livrer ces jeunes générations sans recul, sans distance par rapport à tout ce que l'on peut trouver avec les nouveaux moyens de communication maintenant sur Internet, etc. Donc je ne suis pas du tout contre ces moyens, hein, je ne suis pas passéiste, mais pour s'en servir de façon intelligente, pour ne pas en être la proie, il faut avoir un certain ancrage ailleurs qui permet de juger et d'apprécier plutôt que d'en être le tributaire. Donc c'est un délaissement très peu nourricier qui semble tout à fait nocif. Parce que quand on transmet une tradition, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit philosophique ou une sagesse, on inscrit les jeunes générations dans une lignée humaine. C'est les symboles, les récits, les rites, les mythes constituent un lien entre les générations qui permet à une personne de se situer dans une lignée humaine, non pas parce qu'elle leur appartiendrait corps et âme, ce qui serait sans responsabilité et donc sans liberté, et c'est ce qu'on reproche souvent au fameux communautarisme, mais parce qu'elle sait que l'humanité de sa vie tient à des paroles qu'une longue chaîne de personnes se sont transmises l'une à l'autre. Des paroles dont on peut discuter la signification, l'ampleur universelle ou au contraire étroitement particulariste, mais à condition de les avoir reçues. Si on ne les a pas reçues, je ne vois pas comment on peut le faire. Et donc, elles deviennent ainsi, sans l'avoir choisie, incapables de percevoir comment les livres millénaires qui consignent cette parole gardent un sens et une nouveauté inépuisable. Parce que le sens, il est toujours nouveau, il n'est pas figé une fois pour toutes. Alors, il y a une phrase dans la tradition juive que j'aime bien et qui dit la chose suivante, c'est... un commentaire de la phrase du Deutéronome 28.1. Alors, Deutéronome 28.1, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr. Si tu écoutes, tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et alors, le Talmud dit en effet, à propos de cette phrase, et je crois qu'elle est c'est un enseignement très intéressant, si tu écoutes, parce que la phrase du Deutéronome dit quoi ? Si tu écoutes quoi ? Alors, les rabbins, voilà. Alors là, c'est un exemple, si vous voulez, dans la tradition juive. Là, il y a un signe qui manque quelque chose. Donc, c'est à nous de réfléchir à quoi ? Si tu écoutes quoi ? Alors, si tu écoutes les enseignements anciens, tu écouteras les nouveaux. Mais si ton cœur s'en détourne, tu n'entendras plus rien. Et c'est une phrase très intéressante. C'est-à-dire, si tu écoutes les enseignements anciens, alors tu pourras entendre les nouveaux, mais si tu n'écoutes pas les anciens, tu n'entendras même pas les nouveaux. Seul celui qui a déjà étudié et qui continue de le faire est capable de percevoir de la nouveauté au sein même des paroles qu'il a pu déjà étudier. Et donc c'est pour ça que le texte est d'une richesse qui n'est jamais terminée. Par contre, celui qui n'a pas étudié, qui n'a ni connaissance ni vertu, et qu'on lui a rien transmis, eh bien, il ne découvre rien de nouveau, il se lasse très vite. Il a le sentiment qu'il n'y a rien d'intéressant dans ses anciens enseignements. Combien d'étudiants ai-je vu qui n'avaient absolument aucune connaissance, mais malheureusement seulement les préjugés, ça c'est aussi un point très important, ceux qui n'étudient pas gardent les vagues préjugés qui courent partout. Alors, combien d'étudiants j'ai entendu dire qui disent « bon alors moi je suis athée ». Bon, très bien. Mais en fait, ce n'est pas athée du tout, ils sont ignorants, ils ne savent même pas de quel dieu ils sont athées. C'est vrai. Voilà. Alors, je ne veux pas abuser de votre temps, et donc je voudrais un peu, pour terminer, m'étendre sur la question du désir d'apprendre, de faire des efforts, face aux difficultés, au désir de commencer, au désir de recommencer. Il n'y a pas de méthode pour ça. On aimerait bien qu'il y ait des méthodes pour toutes choses, mais il n'y a pas de méthode pour ça. Donc, comment susciter ce désir, voilà, d'apprendre chez celui qui apparemment ne l'a pas, et quand les multiples sollicitations du monde sont bien plus séduisantes que ce professeur qui veut nous parler, ou nos parents qui veulent nous parler de choses comme ça. Donc, et puis, il y a aussi les sollicitations du monde, puis il y a aussi les distractions, les violences, l'endoctrinement, tout ce qui cherche à capter le désir pour des causes qui pactisent avec la défaite de l'esprit et parfois avec la mort. C'est une vieille question, hein, c'est pas nouveau. Si certains d'entre vous ont lu Platon, en particulier dans le Gorgias de Platon, Socrate se confronte déjà à cette question. Il a affaire à quelqu'un qui veut accomplir tous ses désirs, tout comme il le peut, etc. Donc une apologie de tous les désirs, la multiplicité des désirs, etc. Et le pauvre Socrate, il dit, oui, mais la question c'est quand même quel genre de vie nous voulons vivre. Et bon, l'autre, et donc nous devons vivre une vie juste et bonne et pas une vie désordonnée et avide d'une multiplicité de biens insatiables. Mais le dialogue ne suffit pas du tout pour convaincre son interlocuteur, Gorgias et Calliclès. C'est un échec, et d'ailleurs, comme vous le savez, Socrate a été condamné à mort. Donc c'est une histoire très, très dramatique que cette question. Alors, presque tous les philosophes critiquent la concupiscence, la convoitise, et au contraire, donc, valorisent le bonheur, la sagesse, etc., qui serait beaucoup plus désirable que le reste. Mais c'est une pensée qui n'est pas simple à faire admettre. Alors, moi, mon hypothèse de réflexion serait plutôt de dire que... qu'est-ce que désire le désir? C'est très difficile, bien sûr, comme question à savoir. Le désir, je crois, et la liberté qu'il appelle, cherche un sens. Au sens à la fois de signification et d'orientation. Il y a les deux mots dans sens, qui serait... qui excéderait la consommation des biens de ce monde et la satisfaction qu'on peut y trouver. Donc, il me semble que les êtres humains désirent un sens à leur vie. Ils ne désirent pas simplement consommer, ce n'est pas vrai du tout, ça. Or, ce sens, il provient d'un autre que nous, d'un autre qui laisse une trace en nous. Dire que le désir de connaître, d'aimer, nous destine à une connaissance et un amour qu'on ne peut ni prendre, ni imaginer, mais qu'on peut chercher, qu'on peut recevoir, qu'on peut transmettre avec désir, ça me semble essentiel. Alors je m'appuie sur une phrase que vous connaissez certainement, Deutéronome 8, 3, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous connaissez ça comme moi. Alors, je crois que ce n'est pas du tout une invitation à croire en Dieu, parce que d'abord, croire, il faudrait savoir ce que ça veut dire, puis ce mot Dieu aussi. Donc, voilà, on ne sait pas, c'est deux mots compliqués. Donc, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est une invitation à désirer humainement, dans la trace d'une parole créatrice, la parole de celui qui nous crée, et nous recrée constamment. Donc c'est essayer de replacer notre désir dans la trace de cette parole créatrice, dans cette parole qui nous crée et qui recrée, et qui appelle le désir à grandir avec elle, pour elle, vers elle. Et c'est ainsi que je le comprends. Alors, pourquoi on désire transmettre? Après tout, on peut aussi s'interroger sur un désir de transmettre. Pourquoi on désire transmettre? Alors, dans un autre dialogue de Platon qui s'appelle Le Banquet, il y a une femme qui s'appelle Diotime, enfin, c'est un personnage mythique, qui dit au fond, ce que d'autres disent aussi d'ailleurs, on désire transmettre parce qu'on désire durer, on désire échapper à la mort et donc laisser après soi des enfants, des disciples, ou encore une œuvre, le souvenir d'actes remarquables dans la mémoire des autres. Alors, c'est peut-être vrai, mais je pense que c'est pas, ça n'épuise pas la question, et surtout, c'est que, je dirais que le désir qui est lié à l'espoir de voir la vie, la culture, la connaissance passer au temps des nouvelles générations, ce n'est pas pour que moi je dure passer au temps des nouvelles générations, c'est passer au temps d'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement. Passer au temps d'un autre, passer au temps d'un autre, que ce soit avec des enfants de sa chair, ou que ce soit avec des disciples, etc., c'est découvrir avec joie ou avec tristesse, avec crainte ou avec mécontentement, que cet autre est autre et irréductible à ce qu'on désire, imagine ou prétend. Encourage, et donc, dans le désir de transmettre, il faut qu'il y ait ce désir-là, c'est-à-dire ce désir que l'enfant nous échappe et qu'il se passe de nous. Mais ce n'est pas du tout l'autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure, de rien lui transmettre, en aucune façon. Et on n'aime pas toujours ça. Des gens qui nous disent on ne reconnaît plus son enfant, son élève, il nous échappe. Eh bien oui, mais heureusement, parce que l'altérité échappe à toute prise. Elle échappe à toute prise. Mais il faut partager avec lui quelque chose, lui transmettre, pour qu'il puisse ensuite faire son propre chemin. Et donc transmettre dans cette optique, il me semble qu'il faut essayer que ça soit dans cette optique que nous transmettons, c'est désirer, et quand ce qu'on transmet nous est cher, ça doit être dans cette optique. Désirer qu'autrui prenne la relève, mais autrement, pas qu'il nous répète, sinon ça devient un disque rayé au bout de beaucoup de temps, et justement ça va cesser, si ce n'est avec la génération qui vient, voilà. Et c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive, qui est extrêmement important, un chidouch, un renouvellement. Et dans la transmission, si vous voulez, y a un renouvellement de sens. Et des mots qui ont été transmis, qui ont été médités, et puis vient celui qui, parce qu'il leur pose des questions que d'autres n'ont pas posées avant lui, dévoile d'autres aspects de sens que ce qu'on avait jusque-là pensé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut transmettre, parce que ces paroles, elles ne nous appartiennent pas en propre, elles sont d'une densité infinie, et c'est le déploiement à travers les générations qui vont en révéler toute la densité. Lévinas dit quelque part, je ne me souviens plus très, très bien où, que si justement manque certaines personnes, alors la révélation n'est pas complète. Et donc la révélation, elle passe par la pluralité des personnes. Ce n'est pas une masse de vérité qu'il s'agit, mais elle a besoin d'être accueillie, d'être reçue comme on dit en hébreu, dans le Beth Amidash, le tabernacle de chacun, qui est chacun, ce que j'ai appelé tout à l'heure le soin intérieur, d'un mot un peu moins connoté. Et dans ce désir-là, donc de transmettre, et avec une insistance sur justement le fait que celui qui vient après va renouveler, et c'est ainsi seulement que la tradition va pouvoir continuer à vivre. Donc ce désir-là, c'est un désir qui s'affranchit de ce qu'on appelle dans la tradition racidique la petitesse, katnout, c'est quand on s'enferme dans sa finitude. Et donc qui incite à la soif de la liberté et de la vie, ce qui signifie pas du tout la démagogie d'applaudir à tous les faits et gestes des jeunes générations. Et c'est pas du tout ça. Mais c'est autrui, c'est-à-dire donc les jeunes générations qui creusent en nous ce désir de transmettre, mais pour qu'elles portent aussi ces paroles ailleurs qu'on le croit. Alors, je me permettrai, bien que n'étant pas chrétienne, de réfléchir pour conclure à cette célèbre parabole des talents que vous connaissez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Donc, vous savez que dans la parabole des talents, chacun a reçu une part différente, et puis quand le maître revient, il punit celui qui a enterré sa part au lieu de la faire fructifier. Et son talent lui est même repris et donné à celui qui en a déjà. Alors on dit quand même quelle injustice. Bon. Mais si on réfléchit à cette parabole dans l'optique de ce que j'ai essayé de vous proposer, ça veut dire qu'au lieu de se dire ah, « lui, il a une part plus grande que la mienne », et donc, c'est-à-dire au lieu de porter un regard envieux sur celle de l'autre, il s'agit de faire fructifier sa part unique. Sinon, si on regarde la part des autres, on ne fait plus rien fructifier du tout. Et il n'y a pas besoin de faire intervenir un Dieu sévère. Moi, je ne lis jamais les passages bibliques, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qui font intervenir un Dieu qui, semble-t-il, vient punir les hommes parce qu'ils ont fait ceci ou cela qui n'était pas bien. Je ne crois pas que enfin, je ne les lis pas du tout comme ça. Je les lis toujours comme des images qui nous donnent à penser que l'acte dont il est question porte en lui-même sa propre conséquence négative. Et donc là, il n'y a pas besoin de faire intervenir, me semble-t-il, un maître méchant ou un dieu méchant qui vient punir celui qui a mis son talent au fond de la terre. C'est sa propre attitude qui est stérile. C'est sa propre attitude qui est stérile sans avoir besoin de ça. Bon, en outre, souvent, ces figures sont des figures qui nous habitent l'une et l'autre. On n'est pas forcément simplement le bon serviteur ou le mauvais, etc. Donc, et dans la transmission, je crois, essayer de faire que l'enfant désire faire fructifier sa part, c'est une chose extrêmement importante. Mais alors j'ajoute quelque chose, pour qu'un enfant fasse fructifier sa part, quelle qu'elle soit, je dirais, il faut qu'il se sache béni. Béni, ça veut dire qu'il ait entendu une bonne parole de la part de ceux qui le précèdent dans l'ordre des générations. Sinon, il ne pourra pas le faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai fait allusion à cette autonomie où il y a une violence extrême qui consiste à abandonner, eh bien, on ne peut pas. Donc, pour faire fructifier sa part, quelle qu'elle soit, il faut être béni au sens d'être habité intérieurement par au moins une bonne parole qui nous encourage à la faire. Alors, dans la parabole, pour terminer, pour respecter les temps, dans la parabole, le maître, si vous vous en souvenez, le maître donne sa fortune. Le maître donne sa fortune à faire fructifier. Alors, si on en croit la parabole, sa fortune, en fait, c'est sa parole. Il donne sa parole à faire fructifier. Elle doit croître et se multiplier, et chacun en est responsable. Ce n'est pas plus ou moins de richesse qui compte, mais c'est la part que nous pouvons porter. Et comme dit le philosophe Franz Rosenzweig dans un autre contexte, il ne parle pas du tout de cette parabole, mais il a tout à fait raison, il dit, en fait, nous ne portons que la part que nous pouvons porter. Et si Dieu nous donnait davantage, s'il nous donnait toute sa part, nous ne pourrions pas, nous succomberions. Et donc, ça, il dit ça en particulier dans un texte où il parle des juifs et des chrétiens, et justement en disant, ni les uns ni les autres n'ont toute la vérité, mais ils ont la part qu'ils peuvent porter et qu'ils doivent porter et qu'ils doivent transmettre. Mais on n'a qu'une part. Mais c'est la nôtre.
Bien, alors Catherine Chalier, merci pour cette présentation de la question de la transmission. Vous avez bien montré comment la notion du désir qu'on est appelé à éveiller chez celui à qui on transmet doit aussi être finalement une motivation pour celui qui transmet et être aussi dans cette attitude pour celui qui transmet du don qui est au cœur, il me semble, de l'Évangile. Donc pour les autres qui acceptent finalement que l'autre s'émancipe et que justement il soit tout autre que nous, qu'il construise à sa manière aussi ce que nous avons voulu lui transmettre. Vous avez aussi montré comment la question de l'explication, de l'information, si elle est nécessaire à la transmission, est quand même inscrite dans cette obligation de raconter, qui est tout autre chose que d'informer et d'expliquer, qui est bien plus que ça. C'est sans doute aussi quelque chose aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, que la science nous a occulté, nous a fait perdre de vue. Et évidemment, je pense qu'au travers de tout ce que vous avez exploré, il y a des questions, des remarques. Donc on va laisser la parole à chacun pour s'exprimer, encore 15-20 minutes. Et puis, soit dans la discussion, soit par des questions, vous aurez l'occasion d'approfondir certains des aspects que vous avez exploré. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?
Monsieur le Président.
Oui.
Je serais intéressé de vous entendre dire comment vous percevez la crainte du communautarisme qui caractérise un petit peu notre pays de France dans le contexte du sujet de ce soir.
Le communautarisme, il est souvent critiqué au sens où il ferait fi de la liberté des personnes parce que ces personnes seraient définies par leur appartenance donc à une communauté qu'elles n'auraient pas choisie par définition. Alors je pense que cette critique, elle sous-estime justement la part de possibilité de renouvellement qui existe même à l'intérieur des communautés. Et donc on ne trouve à opposer, on se construit une image qui peut arriver de communautés qui sont des communautés qui essaient de retenir leurs membres et qui ne veulent pas les lâcher dans le grand monde, si je puis dire. Et donc qui les prive de toute liberté. Je suis consciente que ça existe, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais on oppose à ça simplement donc que, en France en tous les cas, on ne connaît que des individus. Et des individus qui sont chacun autonomes et qui ne doivent pas se définir par rapport à cette appartenance. Et, moi, je pense que si vous voulez qu'à l'intérieur des communautés, ce n'est pas forcément cette caricature que j'ai d'abord dite dans le début de ma réponse à votre question, parce qu'il peut y avoir non pas une communauté comme un repli frileux contre le monde méchant, qui ne partage pas nos valeurs, etc., etc. Mais à l'intérieur des communautés, il peut aussi y avoir ce mouvement de transmission, ce mouvement de renouvellement de sens, et qui peut aussi très bien être ouvert sur le grand monde, qui n'est pas forcément... mais on peut avoir quand même... Parce qu'on nous a transmis certaines choses, avoir un attachement qui n'est pas un refus, mais qui est aussi ce qui nous permet nous-mêmes de grandir et peut-être de donner d'ailleurs à la grande communauté, si je puis dire, aussi à notre façon. Donc, voilà, donc faut pas non plus, c'est l'épouvantail, le communautarisme.
Pourquoi en France spécialement ?
Ça s'explique par des raisons historiques. Parce que la République ne reconnaît aucune communauté, elle reconnaît que des individus. C'est beaucoup moins vrai en Angleterre ou c'est beaucoup moins vrai aux États-Unis. Ça s'explique par des raisons historiques. Et donc, comme si donner le moindre gage à une communauté, c'était une régression. Je n'en suis pas sûre.
Est-ce qu'il n'y a pas en France aussi une autre réalité, ce que vous avez un peu souligné avec votre parabole, où est-ce qu'il n'y a pas une réalité où l'oubli de l'oubli a atteint une intensité qui ne se retrouve pas dans d'autres pays, au sens où cet oubli de l'oubli, c'est l'oubli de nos racines chrétiennes, c'est ce rejet des racines chrétiennes, judéo-chrétiennes, et au fond, ça génère un manque absolu qui conduit ou dans le divertissement, dans une espèce de légèreté, ou alors dans des tentatives de réponse qu'on a appelées les devoirs de mémoire, le devoir de mémoire, mais qui n'est pas une réponse au fond, qui reste un vide, parce que ce n'est pas un acte de transmission. Le devoir de mémoire, c'est un devoir, c'est quelque chose de scientifique, de rationnel, et ce n'est pas dans le cas de la transmission que vous avez décrite. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme de réponse à...
Oui, une forme de réponse, mais je pense aussi que il y a quand même un antagonisme foncier en France, je ne dis pas de la part de tout le monde, mais de la part de certains, contre tout ce qui, de près ou de loin, pourrait sembler réintroduire un peu de dimension religieuse dans une société.
Donc on entretient l'oubli de l'oubli.
Oui, on entretient l'oubli de l'oubli. Pardon ?
Qu'est-ce qu'on fera alors si on est oublié qu'on est oublié ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand le monde risque de périr.
Oubli de l'oubli, moi, ça, je peux vous dire que, franchement, dans les jeunes générations d'étudiants que j'ai eues, c'est le cas de beaucoup. Ils ne sont pas malheureux. Mais le problème est, malgré tout, que si un jour, quand même, ils se posent certaines questions, et un être humain, un jour, peut se poser des questions, qu'est-ce qui arrive ? Là, malheureusement, je pense qu'à ce moment-là, ça peut être aussi la tentation d'aller vers des positions rigides et des positions de certitude. Alors que si on transmet la tradition de façon vivante, de façon qui en appelle à la liberté, qui en appelle au renouvellement du sens, au renouvellement des questions, il n'y a pas besoin de se réfugier dans le rigide de certitude en béton armé. Mais quand vous n'avez rien du tout, et vous ne savez même pas que vous avez oublié, vous ne savez pas d'où vous venez, ça c'est beaucoup plus difficile. Et il y a certainement un vide très, très profond, qui est, encore une fois, qui n'est pas forcément vécu dans des crises et dans la souffrance, mais peut-être que chez certains, oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la science qui va le répondre.
Justement, est-ce qu'on n'a pas l'illustration un petit peu des deux phénomènes en même temps, à savoir que toutes ces commémorations que l'on fait, c'est bien une recherche à retrouver des racines, puisqu'on fait des recherches d'archives notamment, mais le siècle 1914 en est une illustration parmi d'autres, passé et à venir. Donc il y a quelque part une racine qui est entretenue collectivement. C'est peut-être ce qui interpelle quelques jeunes générations, parce que malgré tout, au travers de l'information, il y a l'information, mais il y a un contenu aussi, visible ou invisible. Et puis, le deuxième phénomène, oui, c'est ces résistances au terme de réforme qu'on entend, qui est connoté, suivant des sentiments que l'on a, on fait un découpage des régions en ce moment qui ne se fait pas dans la simplicité. Justement, on veut d'abord découper, puis on réfléchira après à... Je ne sais pas, aux origines, enfin, on cherche à reconnaître à partir de ça des racines ou les façons dont on a découpé avant, pour quelles raisons. Parce que justement, on va un peu vite dans ce sens. Je ne sais pas, je vois les deux éléments, si vous voulez, qui sont en confrontation. En tout cas, ça interpelle.
Qui doit transmettre en priorité ?
Pardon ?
Qui doit transmettre en priorité ?
Je crois que c'est la tâche de tout le monde.
Et la motivation principale, je pense, pour pouvoir transmettre, n'est-ce pas l'amour ?
Oui, c'est quand même justement de désirer que ces jeunes générations puissent grandir, puisse devenir aussi elle-même. Donc, si, ça, c'est aimer, aimer, c'est se réjouir que quelqu'un soit, mais qu'il soit pas à la fois mon double, mais qu'il soit autre. Mais en même temps, lui donner ce qui va lui permettre de devenir ainsi. Et ne rien transmettre. Mais parfois, les gens ne transmettent rien parce que eux-mêmes, on ne leur a rien transmis et ils sont très, très... Voilà, ils ne savent pas non plus. C'est...
changer de direction par rapport à ce qu'on vous a transmis avant et tout. Vous répondez si vous avez envie. Hein.
Non, j'ai pas du tout envie, mais pas du tout envie.
C'est personnel.
Mais je vais répondre quand même, mais autrement. Moi, je pense que chacun d'entre nous cherche ce qui lui permet de vivre au sens profond que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que son désir soit dans la trace de la source créatrice qui nous fait être. Bon, voilà. Alors, à partir de là, chacun d'entre nous, et sans raconter sa vie, chacun d'entre nous doit faire son chemin. Et quand il a la grâce, que ce soit par son héritage familial ou autre, de rencontrer des paroles qui lui permettent, alors voilà, c'est tout. Donc je vous réponds sans vous répondre.
Est-ce que le témoignage est une... Justement, est-ce que le témoignage est un moyen de transmettre?
Oh, je pense, bien sûr, oui. Témoigner, c'est bien sûr que c'est transmettre aussi.
Donc témoigner de soi.
Mais pas forcément. Moi, je trouve que témoigner, le témoignage, il est toujours singulier.
Un enfant, quand on transmet à son enfant, on va lui témoigner peut-être de ce qu'a été la tradition pour nous.
Oui.
Mais on va lui témoigner aussi de nous-mêmes, de soi, justement.
Oui, mais je suis d'accord. Mais si vous voulez, il n'y a pas besoin de le dire. Quand une parole est vraie, qu'elle émane de vous, du plus profond de vous-même, vous n'avez pas besoin de lui dire « ma parole émane de moi, de plus profond de moi-même ». Il le sait. Il le sait très bien.
Non, mais vous pouvez lui dire ce que cette parole a représenté pour vous en tel moment de votre vie.
Éventuellement, tel... oui.
Et là, il y a du soi.
Oui, il y a du soi, bien sûr. Mais il y a aussi de l'intransmissible. Quand même. On a parlé beaucoup de la transmission, mais il y a aussi de l'intransmissible. Et il y a en particulier de l'intransmissible dans le domaine de la souffrance voilà, qu'on peut pas forcément transmettre. Donc on va pas forcément en charger les autres non plus. Mais
comment vous percevez alors toute la question des martyrologes, par exemple?
Ça me laisse un peu...
Perplexe.
Perplexe, oui. Mais, vous savez, on peut mourir pour des causes diverses. Hein. Ça ne prouve pas la vérité d'une cause. Ça, c'est...
Sauf que chez les protestants, le martyrologe est toujours associé à la parole.
Oui.
La parole qui renvoie à l'acte de vérité, puisque c'est la parole de Dieu.
Oui, mais on peut aussi mourir pour des choses terribles. Donc, ça, c'est...
Peut-être aux deux niveaux, au niveau personnel, intime, et après, quand on est au niveau du collectif, à partir de la famille, des états, etc., des familles de pensée, peut-être qu'il y a deux niveaux, ce qui peut être dit ou apprécié, la petite part du secret personnel. Parce que sinon, ce qui est personnel, on est dans la biographie.
Je pense qu'évidemment.
Ça a sa valeur, évidemment.
Mais moi, il me semble que témoigner dans le sens que j'ai essayé de dire, c'est sans réflexivité, c'est-à-dire c'est sans retour sur soi. C'est sans retour sur soi. Et à partir du moment, et c'est pour ça que ça me gêne, une question comme la vôtre, au sens où vous impliquez un retour sur soi qui me paralyse, vous voyez, qui ne m'intéresse pas, en fait.
Est-ce qu'il y a une autre question, d'autres remarques? Oui.
Vous avez fait référence dans votre discours à une rupture essentielle intervenue dans le courant d'histoire du XXe siècle. Est-ce que vous pourriez expliquer cette rupture de quelques...
Ben, le XXe siècle, vous savez comme moi que c'est un siècle épouvantable, que je sache. Donc, c'est quand même un siècle qui est marqué par deux guerres mondiales terrifiantes, par les événements effroyables que sont la Shoah, les camps d'extermination, le goulag et toutes sortes de choses que vous connaissez aussi bien que moi. Et donc, se sentir héritier de ça est aussi d'une lourdeur totalement accablante. C'est quand même, et si vous voulez, pour être un tout petit peu plus précise par rapport à l'allusion que j'ai faite tout à l'heure, jusqu'au XIXe siècle, il y avait quand même le sentiment que l'histoire, voilà, elle allait, elle progressait. Et là, on a, avec le XXe siècle, quand même, avec tous ces événements terrifiants, une rupture. Et ça se sent par exemple très très bien dans la philosophie. En philosophie, vous avez quand même plus ces grandes fresques historiques qui semblaient, on allait vers quelque chose qui un avenir qui était un avenir lumineux. C'est quand même très difficile de tenir une telle position après ce siècle-là. Donc il y a une rupture dans cette confiance dans l'histoire, dans cette confiance dans une avancée vers plus de liberté, plus de etc. Donc, alors, peut-être certains ne le pensent pas, mais je pense qu'il y a eu quand même une rupture qui nous marque beaucoup.
Dans votre livre, vous abordez la question de l'idolâtrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Qu'est-ce que c'est être aujourd'hui être idolâtre pour vous?
Ouais, donc l'idolâtrie, c'est en effet, c'est pas bien sûr se mettre à genoux devant un veau d'or, mais c'est tout ce qui consigne le divin à ce que nous pouvons en supporter. C'est-à-dire qui assigne le divin à être ce que nous avons décidé. Une fois, il n'y a pas très longtemps, je faisais une conférence sur un tout autre sujet où était abordée la question de la faiblesse de Dieu et de son non-secours dans beaucoup de souffrances humaines. Il y a quelqu'un qui dit « Ah ben alors, ça sert à quoi, Dieu ?» Oui, bon, alors, si. Alors ça, c'est tout à fait idolâtre, c'est-à-dire consigner Dieu à être à notre service. Bon, alors, il y a d'autres façons d'idolâtrer. On peut idolâtrer des idées, on peut idolâtrer une idéologie, et donc avec des effets, bien sûr, terrifiants de cette idéologie, parce que non seulement l'idole, nous la servons, mais nous la servons avec un grand empressement, et nous imaginons qu'elle nous demande toutes sortes de choses qui sont parfois tout à fait affreuses, et nous le faisons. Bon, alors, je pense que pour poursuivre un peu dans la remarque de monsieur tout à l'heure à propos du XXe siècle, au XXe siècle, il y a eu des idoles au sens d'idéologie qui ont été des idoles, c'est-à-dire une contrainte de penser d'une certaine façon. Qui ne laissait pas place ni pour le doute, ni pour la crainte et qu'il fallait servir. Et c'est comme ça que j'explique dans le texte biblique, vous savez, quand Dieu dit qu'il est un Dieu qui punit les générations, je ne sais plus,
jusqu'à la troisième, quatrième,
et puis qu'il est béni jusqu'à mille. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois que justement, là encore, sans faire intervenir un Dieu qui punit au sens il intervient, puis il vient et qui punit, on voit qu'en effet, l'idole s'épuise au bout de 3 ou 4 générations.
Vous dites, elle est mortifère.
Elle est mortifère, elle est mortifère, et au bout de 3 ou 4 générations, elle s'épuise, elle n'arrive plus à se transmettre. Tandis que la parole vivante, en effet, c'est elle qui peut se transmettre jusqu'à 1000 générations. Mais les idoles ne font pas vivre, et elles finissent, en effet, au bout de 3-4 générations à disparaître. Mais entre-temps, elles ont fait beaucoup de mal, bien sûr.
Est-ce qu'on peut considérer que ceux qui décapitent ou qui murmurent actuellement obéissent à des idoles?
Oui, je pense, des idoles terrifiantes, mais... ça, c'est le fanatisme le plus grand. Puis mais si vous abordez cette question, je pense qu'il y a une question qu'on doit tous se poser, je ne prétends pas du tout répondre, mais nous, ici, c'est pourquoi ça peut tenter certains jeunes Français.
Est-ce que justement, c'est parce qu'ils sont en carence de transmission?
Je pense qu'ils le sont certainement, mais c'est je ne prétends pas savoir ce qu'il faut faire, mais ils le sont certainement. Et je disais tout à l'heure à M. Vélo, j'avais entendu comme ça le maire d'une ville où un de ces jeunes gens vivait, quoi. Et il disait, mais pourtant, j'avais tout fait, ils avaient du foot, ils avaient ceci, ils avaient cela. Vous voyez, je trouvais ça pathétique parce que... C'est pas ça non plus aussi qui fait vivre. Je pense que c'est ces gens dans j'en sais rien moi, mais ils cherchaient autre chose quand même. Et puis donc dans un vide, ils sont peut-être trouvés là. Le fanatisme, ça peut se greffer sur plein de choses différentes, hein, et sur plein de choses différentes. Mais c'est quand même à chaque fois. Qu'il n'y ait plus de doute, qu'il n'y ait que des certitudes, et d'être dans la puissance aussi, dans la puissance, dans l'absence de faille. Alors, il se trouve que ça se greffe sur cette idéologie-là, mais ça peut se greffer sur d'autres. Hein.
Est-ce que vous pensez que ça aurait pu exister à une époque où il n'y avait pas ni Internet, ni les vidéos, ni...
Il y a eu des fanatismes bien avant, bien avant. Hein.
De nos jours, ils prennent peut-être plaisir à diffuser.
Je ne suis pas une grande adepte de tous ces réseaux sociaux, comme on dit, mais d'après ce que j'entends, ça facilite beaucoup la diffusion de toutes ces idées. Mais en même temps, c'est vrai que c'est d'une tristesse infinie que de penser que des jeunes gens tout seuls devant leur ordinateur et leur réseau, et ça prouve quand même un abandon profond. Donc c'est... Voilà, j'accuse personne, hein, mais c'est quand même un abandon profond. Et donc livré sans aucun moyen de défense de leur critique à des choses absolument terrifiantes. Alors, on est tous habités aussi par des forces qui ne sont pas sympathiques, mais on n'est pas prié de s'y laisser aller. Hein.
Une question. Un peu dans cette direction, ce qui m'intéresse de savoir si, cette valeur qu'on donne à la transmission est en soi quelque chose qui aide à l'humanité, à la vie humaine, quoi qu'il soit l'origine. Donc, nous avons le privilège d'avoir donc cette parole créatrice qu'il y a au judéo-christianisme au départ. Donc, on a des valeurs qui sont dignes de transmettre. Mais est-ce que dans des autres cultures où il y a beaucoup de secrets qui sont transmis, il y a des choses qui sont transmises qui sont plutôt obscurantisme ou autre, on parle des rites anciens, de sacrifices d'enfants et d'autres, est-ce que là, ils peuvent, la transmission, une purification qui se fait, ou comment vous voyez la transmission dans ces cultures qui nous semblent tout à fait étranges et plutôt sur un niveau de secret?
Bon, de toute façon, je ne me permettrai pas de juger toutes les cultures comme ça, globalement, en disant sauf la nôtre qui est très bien. Ça serait quand même pas du tout. Je veux dire, il y a de très belles cultures, de très belles transmissions dans de toute autre culture que la nôtre. Et la part obscure, non, je suis désolée, mais la part obscure, elle est aussi chez nous. Il ne faut pas du tout dire la part obscure, elle est chez gens qui font des rites bizarres et tout. Je veux dire, chez nous aussi, il y a une part obscure, que nous soyons juifs, chrétiens ou musulmans, bien sûr qu'il y a une part obscure. Et nous pouvons l'entretenir ou au contraire essayer de faire prévaloir les forces de la vie sur les forces de la mort. Mais ça, je crois que c'est toutes les cultures qui sont traversées par ça, pas simplement la nôtre. Je crois pas qu'il faut s'épargner comme ça. Il faut être bien conscient qu'on a notre part obscure aussi bien individuellement et que justement c'est un travail de chaque jour d'essayer de faire en sorte que cette part obscure en nous ne prenne pas le dessus. Quand je dis part obscure, encore une fois, c'est pas forcément d'être très méchant envers autrui, hein. Ça peut être aussi tout ce qui en nous nous fait tendre vers le découragement, la tristesse, l'entropie, tout ça, c'est aussi notre part obscure, ce que j'ai appelé la petitesse tout à l'heure. Donc, les cultures dans leur ensemble, elles l'ont aussi. Donc, chacune doit aussi faire prévaloir la force de la vie. Donc, dans la Bible, en effet, la parole est créatrice. La parole est créatrice et cette parole, elle habite la création. Le texte de la création, le Bereshit, le texte de la Genèse, Dieu dit, etc., ça ne s'est pas passé il y a très 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 longtemps, c'est maintenant que ça se passe, à l'instant où je vous parle que ça se passe. Et cette parole, elle habite l'intériorité de chacun d'entre nous, mais on peut la mettre sous le boisseau, l'enfoncer en nous, ne plus en trouver le chemin. Et ça arrive aussi, même à des gens de bonne volonté, ne plus en trouver le chemin, et qu'elle soit recouverte de toutes sortes de gravats. C'est une expression qu'employait quelqu'un qui est très, très remarquable, qui s'appelait Thiel Soum, quand elle disait « Dieu est en moi comme au fond d'un puits, mais il y a plein de gravats, il faut que j'enlève les gravats pour qu'il puisse un peu respirer. » Donc voilà, moi je pense que c'est... Je ne fais pas ce partage que vous faites. Je pense que... Occupons-nous de notre part obscure à nous. Voilà. Parce que sinon, c'est très... Si on voit que la part obscure chez les autres et pas en nous, on se facilite la tâche et puis on risque aussi de tomber... très vite dans l'accusation, c'est-à-dire c'est les autres qui font pas bien et nous, bien sûr, c'est bien. Donc il faut lire comme ça, par exemple, toutes les figures de la Bible. Moi, j'ai appris aussi à les lire de cette façon-là. Par exemple, il y a dans le texte biblique un ennemi implacable d'Israël qui s'appelle Amalek. C'est l'ennemi, voilà. Et par exemple, dans la tradition chassidique que je connais assez bien, la tradition racidique dit, ouais, Amalek, oui, d'accord, c'est Amalek, mais Amalek, c'est aussi Amalek en nous. Et donc, Amalek en nous, il faut aussi y travailler.
Oui, dernière question.
Et finalement, ils ne transmettent plus. Et qu'est-ce que vous pouvez nous donner
figure d'autorité.
Oui,
oui
mais
c'est...
Bah, la transmission de la connaissance, de la science, c'est très bien. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, enfin, je n'ai pas beaucoup développé. Mais si vous voulez, moi je pense qu'il faut aussi, même dans cette transmission-là, si on est chargé de le faire, il faut aussi y mettre de soi, c'est-à-dire que ceux à qui on transmet perçoivent l'importance pour eux. Et l'autonomie, c'est un mot qui il y a une inflation de l'usage de ce mot. Alors, je ne suis pas pour qu'il n'y ait pas d'autonomie, mais si vous réfléchissez bien au sens du mot, autonomie, ça veut dire se donner à soi-même sa propre loi. Bon, c'est ça que ça veut dire. Bon. Mais quand on entourage l'autonomie trop tôt, par exemple, on voit des gens qui, il faut que leurs enfants à 2 ans, ils soient déjà autonomes. Bon, non, on n'est pas autonome à 2 ans, c'est tôt. Voilà. Et puis, au contraire, moi, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, enfin, dans le début d'une petite introduction que j'ai essayé de faire, c'est l'unicité de chacun. Ça, je suis tout à fait pour encourager l'unicité de chacun dans la mesure des possibilités. Mais cette unicité, elle naît en réponse à un appel qui lui est lancé. Et si l'autonomie n'est pas dans cette ligne, c'est-à-dire si les personnes n'ont pas le sentiment qu'un appel leur est lancé, qu'elles peuvent répondre à quelqu'un, moi, je crois que c'est totalement fallacieux. Et d'ailleurs, en plus, on le voit bien chez beaucoup de jeunes gens en particulier, cette autonomie n'en est pas une, puisque souvent, c'est un grand mimétisme avec ceux qui sont de la même génération que soi. Et ce mimétisme-là, il est bien plus pernicieux, parfois, bien plus dur même, et bien plus intolérant que ce qui peut venir de ceux des générations qui les précèdent. Et donc, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas encourager l'autonomie, mais une vraie autonomie et pas s'en faire une illusion.
Juste une dernière question. Oui. Pour sortir de la question de l'autonomie, mais le texte de Char dont vous avez parlé, Char parle d'un héritage, il n'y a pas de testament. Là. La notion de testament, c'est quand même une parole fixée juridiquement, donc c'est une parole d'autorité. Mmh. Quelle est la place de la figure d'autorité dans la transmission? Comment une autorité est appelée à transmettre sans être autoritaire, sans être autoritariste?
Oui, tout à fait.
Tout en respectant la liberté de celui à qui elle transmet. C'est aussi toute la question aujourd'hui.
Cette figure d'autorité, parce que justement, on l'assimile trop facilement et à tort, à mon avis, on l'assimile trop facilement avec la domination ou quelque chose de cet ordre. Or, quiconque a quand même un peu enseigné ou à faire, c'est bien que parfois une autorité, par exemple, qui dit qui pose des limites, par exemple, qui pose des limites et qui considère que telle ou telle chose doit être étudiée. Bon, c'est rassurant aussi. Vous voyez, si vous ne transmettez pas des limites, si vous vous laissez l'enfant à ses pulsions totalement désordonnées, c'est très insécurisant pour lui, très insécurisant. Et contrairement à ce qu'on pense, très souvent, les très jeunes aiment bien l'autorité, mais pas au sens de l'autoritarisme, mais au sens d'une parole qui dit que c'est ainsi, et que tout n'est pas sur le même niveau, que les profs ne sont pas des copains.
Mais quand ils refusent certains enseignements, parce qu'on entend de plus en plus des enseignants qui disent les parties du programme d'histoire que je ne peux plus faire parce que c'est le tollé, souvent quand ça aborde des questions plus ou moins religieuses.
Oui, et puis des questions aussi d'histoire dans certains lycées ou certaines parties. Ça peut être tout à fait difficile parce que surtout que c'est pas le professeur, il est quand même vulnérable et il est face parfois des groupes qui sont hostiles. Mais malgré tout, moi je pense qu'il ne faut pas du tout céder. Et je crois d'ailleurs que dans les collèges dits difficiles, ce sont ceux où il y a un relais avec l'autorité administrative qui est très ferme, qui est très strict, où les choses se passent le mieux. Pardon ?
C'est rare.
Quoi, qui est rare ?
Le relais avec l'autorité administrative.
Ça existe aussi quand même. Mais... Je pense que je ne méconnais pas les grosses difficultés, mais ce n'est pas une question pour dire qu'il faut renoncer à cette autorité.
Bien, je vous propose, si vous voulez approfondir ces questions encore, de découvrir les livres de Catherine Chalier. Je vous propose de remercier encore notre conférencière. Alors, nous terminerons juste avant de nous quitter le cycle Protestantisme et la guerre la semaine prochaine avec Emmanuel Pasquier qui viendra nous parler de la guerre juste. La guerre juste existe-t-elle ? Donc, conférence qui clôturera notre cycle consacré cette année au protestantisme et à la guerre. La guerre juste existe-t-elle ? Pose deux questions très rapidement hein, pour finir sur le modèle de l'Empire romain. Vous savez que dans l'Empire romain, la guerre n'était jamais déclarée sans qu'il y ait eu une décision du Sénat, un senatus consulte, il fallait que juridiquement la guerre soit juste et aussi il fallait que les dieux, donc que les dieux approuvent cette guerre pour qu'elle soit morale. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir justement si nous sommes encore dans cette perspective avec l'ONU, hein, qui est toujours là aussi pour valider les guerres. Et la question qui se pose aujourd'hui pour nos sociétés est de savoir si les guerres que l'Occident mène encore sont des guerres justes. Est-ce que nous avons raison d'intervenir dans certains pays, ainsi de suite. Donc, toute cette question reste une question, évidemment, profondément actuelle. Voilà, donc on terminera le cycle de conférences vendredi prochain avec Emmanuel Pasquier, qui enseigne aussi à l'Université de Nanterre, comme Catherine Chalier. Je vous invite à découvrir encore les livres de Catherine Chalier, profitez-en, et une grande partie qui est présente ici, et puis d'autres livres sont présents dans la librairie, n'hésitez pas aussi. Voilà, merci, bon retour à tous.